BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission week-end. On vous emmène à l'usine, à la cantine et au bureau partagé. Voilà le programme. On sera d'abord avec Frédéric Julien, le DRH d'Insectes qui transforme et qui élève des insectes du côté notamment de la Picardie. Comment recruter dans l'industrie pour résoudre les problèmes de l'alimentation de demain? On en parle avec lui. Ensuite, on va parler de la cantine connectée et de bien manger. Combien ça coûte de bien manger et pourquoi c'est important au bureau? On en discutera avec Mickaël Ormancé, le fondateur de Foodles. Et puis enfin, on parlera du retour au bureau au pluriel, avec la directrice Europe de WeWork. Vous allez voir tous ces sujets dans votre magazine Happy Boulot. A tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et le premier invité de notre semaine, c'est un DRH dans l'industrie. Bonjour Frédéric Julien.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des ressources humaines d'Insectes, une entreprise dont on a suivi l'évolution de la naissance à aujourd'hui, la scale-up depuis pas mal de temps. Vous et votre équipe, vous élevez et vous transformez des insectes avec un objectif très simple, globalement, qu'on ne meure pas de faim dans les prochaines années.
C'est très bien dit, c'est ça. Donc pour la nourriture humaine, pour les animaux et pour les plantes.
Alors parlez-nous un petit peu des insectes que vous élevez.
Alors nous, on a des fermes ultra modernes à Dole, dans le Jura. On en construit une et c'est notre gros projet aujourd'hui à Amiens qui va démarrer dans quelques semaines. On est aussi à Hermelot, en Hollande et dans le Nebraska.
Voilà, création en 2011. Et c'est le DRH qu'on interviewe aujourd'hui, évidemment, dans le cadre de Happy Boulot, parce que vous avez un chantier très précis, celui de l'ouverture d'une nouvelle usine. Vous incarnez un projet industriel. Et évidemment, on a plein de questions à vous poser sur comment on fait pour mener ce projet industriel dans le contexte de recrutement, de profil, mais aussi de financement actuel. Alors, parlez-nous de ce projet d'usine qui voit le jour du côté d'Amiens à Poulainville très précisément.
Donc à Amiens, Poulainville, c'est demain la ferme verticale la plus haute du monde. C'est 100 fois la production de notre site de Dole dans le Jura aujourd'hui. Et c'est une usine qui démarre dans quelques semaines.
Pour ceux qui nous suivent à la télé, il y a quelques images. On a besoin que vous nous décriviez ce que c'est qu'une usine d'insectes. Est-ce que ça ressemble à un élevage de poules? Est-ce qu'au contraire, c'est extrêmement sophistiqué? Est-ce que c'est un endroit qui est hermétique? Décrivez-le-nous avec des mots concrets.
Alors, c'est ultra moderne. C'est ultra moderne, c'est ultra innovant, c'est 1 milliard de data par jour. On a deux parties sur notre ferme verticale, une partie d'élevage, de nourrissage de nos insectes et une partie de transformation pour en faire des ingrédients pour les humains, pour les animaux et pour les plantes.
Vous utilisez le mot data et on le sait, quand on connaît votre entreprise, ce mot est au cœur du business model et de l'entreprise au sens propre. Mais concrètement, donnez-nous des exemples de data qui servent tous les jours à nourrir votre entreprise.
Donc c'est des modèles prédictifs hein, basés sur l'intelligence artificielle, basés sur l'automatisation, sur la robotisation, pour savoir quand nourrir aux insectes, comment les nourrir, quelle quantité, les meilleurs moments pour avoir le meilleur développement de nos insectes, le bien-être des insectes.
Vous élevez, votre équipe élève des insectes. Est-ce qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'industrie des insectes et celui d'autres secteurs industriels de l'alimentation? Je pense à l'élevage par exemple de bovins ou à la culture de légumes. Quels sont les parallèles qu'on peut faire entre
D'accord.
les deux secteurs?
Alors, d'abord, effectivement, on est une start-up très atypique parce qu'on est industriel. Ça veut juste dire qu'on a une diversité de métiers énorme. On a 120 métiers chez nous. Par rapport à d'autres industries agroalimentaires, une de nos particularités, c'est qu'on a l'ensemble du process. On a le process d'élevage, on a le process de nourrissage, on a le process de transformation, ce qui est extrêmement atypique et beaucoup plus complexe.
120 métiers, évidemment, en tant que DRH, c'est vous qui avez la vision la plus précise de ces 120 métiers. Listez-nous quelques-uns des métiers qu'on peut attendre et quelques-uns des métiers inattendus.
D'accord. Donc c'est de la robotique, c'est de l'automatisme, ce sont des métiers industriels, c'est de l'entomologie, donc ce sont des spécialistes des insectes en situation industrielle. C'est aussi beaucoup de recherche. Insectes, pendant plusieurs années, c'est un centre R&D basé à Évry, c'est toujours le cas. Ce sont des fonctions industrielles, de logisticiens, d'encadrement, d'opérateurs, de conducteurs de lignes. Donc c'est une diversité énorme et des métiers extrêmement pointus.
Il y a déjà, vous l'avez dit, un site plutôt R&D, plutôt recherche à côté de Paris, du côté d'Evry. Une usine, comme ça qu'on dit, du côté de Dole dans le Jura. L'usine qui s'apprête à ouvrir en Picardie du côté d'Amiens. Quelles sont les différences avec le site qui existe déjà et qui tourne déjà à Dole ?
La principale différence à Amiens, c'est l'échelle. On va changer d'univers.
Donnez-nous des chiffres, on imagine.
100 fois plus de production pour commencer.
Ça
jusqu'à
fait combien
300...
de milliers ou de milliards d'insectes ?
C'est des centaines, de milliers de tonnes.
Des centaines de milliers de tonnes. Alors évidemment, on va parler des gens dont vous avez besoin. On va passer un petit appel aussi peut-être à recrutement si vous Merci. Avez besoin du côté d'Amiens. Quels sont les postes à pourvoir sur lesquels vous galérez le plus ? Parce que ce projet d'usine, il ne vient pas de germer dans la tête de vos équipes. Il a combien d'années ce projet avant de voir le jour ?
Alors ce INSEC, c'est 11 ans. On vient de fêter notre 11e anniversaire. Le projet, c'est... 3 ans.
Voilà, la gestation d'une usine, c'est 3 ans.
C'est 3 ans.
Alors là, aujourd'hui, quels sont les postes que vous recrutez activement du côté d'Amiens ?
Alors les principaux postes qu'on recrute aujourd'hui activement sont des conducteurs de lignes, de lignes automatisées, de lignes très automatisées, des opérateurs, mais aussi des techniciens de logistique, des techniciens de maintenance, des techniciens de laboratoire. Donc c'est des fonctions relativement classiques de sites industriels, mais ce sont des fonctions extrêmement pointues puisque des métiers extrêmement automatisés.
Alors vous me voyez venir, est-ce que c'est facile de recruter à Amiens ? On va s'enlister tous les avantages du territoire de la Picardie. On sait que c'est quand même aussi une région de France avec une capacité humaine limitée, parce que simplement, voilà, tout, c'est pas forcément un gros centre urbain tous les 200 mètres. Comment on fait pour trouver les talents à Amiens ? Ce serait le même problème si vous étiez ailleurs en France, mais je veux dire, voilà, typiquement à Amiens, qu'est-ce que vous avez comme ressources humaines disponibles ?
C'est une des premières questions qu'on s'est posées, on a apporté plusieurs réponses à ça. Une des réponses principales, c'est le recrutement sans CV. On n'est pas les seuls à faire ça. Pourquoi on fait ça et en quoi ça répond à la question ? Alors d'abord, quand on fait ça, ça veut dire qu'on reproduit des postes de travail d'opérateurs et des conducteurs de ligne en partenariat avec Pôle emploi. C'est des assemblages de pièces à base de Lego, des pièces de couleurs et de formes différentes, avec du montage, du démontage, de suivi de mode opératoire, parfois avec des ambiances musicales, parfois avec des ambiances volontairement dans du bruit pour reproduire des contextes d'atelier. Alors ça nous permet d'abord d'aller chercher des gens qui sont les plus raccords possibles et les plus en lien possible avec nos besoins, ces tests d'habileté. Mais surtout, ça nous permet...
Vous avez des gens clés en main, vous savez que vous pouvez les mettre
directement
au travail.
Et surtout, ça nous permet d'aller chercher des personnes qu'on ne va pas chercher habituellement. Donc d'élargir l'assiette de recrutement. Pour vous donner un exemple extrêmement concret, sur les 30 opérateurs et conducteurs de ligne qu'on a recrutés, 2 étaient en CDI. Les autres étaient sans emploi ou étaient en intérimaire. Donc ça nous permet d'aller chercher ailleurs que là où on va chercher habituellement.
Est-ce que vous diriez que vous êtes aidé par la Picardie ? Est-ce que vous avez été accueilli dans une logique de « on accueille et on fait de la place pour les projets industriels » ?
Complètement, depuis le début. Depuis le début, les équipes RH sont extrêmement implantées localement, travaillent en partenariat avec Pôle emploi et la municipalité, le département, la région sont des alliés et des soutiens extrêmement précieux sur ce projet.
Pardon de vous le dire comme ça, mais vous prenez la place de qui ? Où est-ce que vous allez récupérer les gens qui vont venir, qui vous rejoignent déjà pour travailler ? Ils arrivent d'où ? Ils sont, vous êtes dans une logique de reformation aussi, de profil. Comment ça se passe ?
Je pense qu'on prend la place de personne. D'abord parce qu'on va chercher des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et qui sont très en adéquation avec nos besoins.
Mais pas trop éloignées physiquement, parce qu'il faut quand même se rendre sur votre site. Vous n'avez pas beaucoup de postes, j'imagine, télétravaillables du côté d'Amiens.
Non, et d'ailleurs, on travaille en partenariat avec les municipalités pour avoir des pistes cyclables, des pistes de bus, des lignes de bus supplémentaires, des pistes cyclables supplémentaires pour arriver sur notre site. Alors, une de nos particularités, c'est que les métiers qui sont les nôtres, ce sont des métiers qui n'existent pas. On crée une filière qui n'existe pas. L'autre réponse qu'on a donnée à ça, après le recrutement, c'est une réponse en termes d'intégration et de montée en compétences rapide des personnes qu'on va recruter, parce qu'on ne va recruter personne qui connaît nos métiers. Et on a créé une école interne qui s'appelle Chrysalis. Chrysalis, aujourd'hui, c'est pour tout nouvel arrivant, 8 jours, pour apprendre tout ce que vous devez savoir et voulez savoir sur INSECT.
8 jours pour devenir un
papier, complet.
Quoi.
Exactement. Et c'est ensuite, pour nos opérateurs, nos conducteurs de ligne, nos techniciens, jusqu'à un mois de formation au poste de travail, pour être le plus à l'aise possible sur le poste de travail. Ce qui veut dire que pour des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, qui n'ont pas une expérience industrielle récente, on les monte en compétences et on fait en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible et le plus raccord possible avec le poste de travail et le milieu industriel avant de prendre le poste.
Alors, une dernière question, Frédéric, pour conclure. Insect, c'est quand même une très belle boîte de la French Tech, une belle boîte qu'on ne peut plus qualifier de start-up parce que vous êtes plus qu'une scale-up. Maintenant, vous êtes un projet industriel à proprement parler. Comment on arrive à concilier, à créer une marque employeur, à créer une culture d'entreprise et à mettre tout le monde dans le même bateau entre voilà, ces conducteurs, ces planificateurs de production, ces techniciens de maintenance, tac, 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 toutes les échelles de l'usine jusqu'à votre site de R&D d'Evry. Comment on arrive à embarquer tout le monde dans l'aventure et dans la culture Insect?
C'est un enjeu très fort pour nous parce qu'une scale-up, ça veut dire que c'est une entreprise, on est une entreprise qui se transforme très vite et qui évolue extrêmement vite. Et c'est un enjeu d'autant plus fort que les personnes qui nous rejoignent, c'est pour ça, c'est pour notre culture et notre raison d'être. Et on a développé un certain nombre de moyens en interne que sont un réseau social interne qui permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information, que vous soyez opérateur, que vous soyez au siège, au corporate, que vous soyez dans le site R&D, que vous soyez au Nebraska, vous avez exactement le même niveau d'information. On a mis en place aussi un baromètre interne. Donc ce sont des enquêtes tous les 6 mois où on va prendre le pouls de l'ensemble de nos collaborateurs pour avoir en temps réel le panorama de ce qui fait plaisir à nos collaborateurs, de ce qu'ils aiment et aussi de ce qu'ils veulent voir évoluer, de ce qu'ils veulent voir changer. Donc c'est ces 6 derniers mois, 25 actions concrètes de formation qu'on a développées sur le feedback, sur la reconnaissance au travail, sur des aménagements de locaux. Et puis ce qu'on fait également, c'est le Ask Me Anything. Ask Me Anything, c'est 4 fois par an. C'est notre CEO, c'est ça. Demandez n'importe quoi à notre CEO qui vous répond en direct. Et les questions sont anonymes.
Voilà, on continue à suivre évidemment l'aventure et le projet industriel d'Insect. Merci beaucoup Frédéric Julien d'avoir été avec nous. Vous êtes le DRH d'Insect, vous l'avez dit, de Dole dans le Jura en passant par Amiens, Picardie, du Nebraska, mais aussi à l'est d'Amsterdam. Voilà le projet industriel de votre équipe. Merci beaucoup d'être avec nous. Restez branchés. Dans quelques secondes, on va parler de la place, de l'importance de ce qu'on mange au bureau.
Merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better together.
On va manger au bureau, petit déjeuner, snacker, déjeuner, peut-être parfois dîner. Ce qu'on met dans l'estomac au bureau, et bien c'est un vrai sujet et il s'est passé plein de choses dans ce domaine avec notamment la crise Covid. On va en parler avec Mickaël Ormancé. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Foodle. Alors on va pitcher votre entreprise pour ceux qui ne la connaissent pas. On est dans les frigos connectés mais on est dans du frais et on est surtout dans de la restauration collective. Alors quel type d'entreprise vous équipez en frigos connectés?
Toutes les entreprises qui ont des besoins de restauration. Donc en fait on va leur fournir clé en main, des frigos, des cafétérias qui vont permettre à leurs collaborateurs de se restaurer au quotidien à travers des produits frais, diversifiés et à des prix raisonnables.
Comment vous rentrez dans une boîte? C'est quoi votre argument pour dire faites-nous confiance, on va mettre des frigos qui vont être mieux achalandés que toutes les autres offres que vous pourriez avoir?
Alors je pense qu'on a 2 arguments. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on permet en fait à des entreprises, à des dirigeants, de proposer à leurs collaborateurs un service de restauration. Il faut savoir, et l'étude le dira, c'est que 3/4 des personnes estiment que le fait d'avoir un service de restauration en interne participe à l'attractivité de l'entreprise.
Donc, tout type de taille d'entreprise confondue.
Tout type de taille d'entreprise. Donc avec Foodles, les entreprises qui n'avaient pas les moyens, entre guillemets, de s'équiper des cantines traditionnelles peuvent le faire aujourd'hui avec du Foodles. Et depuis la crise du Covid, on a aussi énormément de restaurants d'entreprise qui ont fermé leurs portes.
Oui, qui ont dû réduire la voilure.
Exactement, parce que les taux de fréquentation étaient bien inférieurs. Et aujourd'hui, grâce à Foodles, on peut opérer cette transition et permettre de proposer ce service de restauration.
Alors Mickaël, vous faites à l'instant référence à une étude que vous avez menée. Face à l'inflation, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les Français sont tout de même prêts à dépenser une petite somme pour bien manger depuis le bureau. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'étude que vous avez menée? 2-3 chiffres, 2-3 infos clés.
Je pense que s'il y avait 2 chiffres à retenir, c'est le premier en effet. Les Français aujourd'hui sont prêts à dépenser 8,20€ pour leur déjeuner. Ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième, 2/3 des Français pensent que le moment du déjeuner est lié au bien-être au travail.
Mais alors, il est lié comment? Parce qu'on fait une pause? Parce qu'on mange bien? Parce qu'on socialise? Quels sont les aspects de ce bien-être?
Je pense que c'est un peu tout. Mais en effet, c'est un peu la parenthèse qu'on va s'offrir pendant sa journée de travail. Et c'est ce qui va surtout renforcer les liens entre les collaborateurs. On dit souvent que la cantine en entreprise, c'est une restauration sociale, pour deux raisons. La première, bien évidemment, à travers le lien que ça va avoir entre les collaborateurs, et le deuxième, à travers le prix. Parce que quand on va à la cantine, on s'attend à payer moins cher que quand on va dans un restaurant aux alentours. Et c'est pour ça que le 8,20€ est assez important. Et si vous avez la chance, en tout cas, d'avoir un restaurant Foodles, vous verrez qu'on rentre très bien dans ce 8,20€.
Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans un frigo dans l'absolu. Alors comment vous arrivez à offrir suffisamment une gamme large pour que justement tout le monde s'y retrouve ?
Chaque jour.
C'est la data qui vient justifier ce que vous mettez dans vos frigos.
Alors, c'est vrai qu'on suit en temps réel la consommation. Après, c'est notre job de proposer une offre alimentaire qui soit en adéquation avec les attentes des collaborateurs. Donc, grâce à la data, on sait exactement ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc, on va personnaliser l'assortiment produit. On va mettre plus ou moins d'entrées, plus ou moins de plats, plus ou moins de plats végétariens, plus ou moins de desserts gourmands, plutôt healthy, pour avoir vraiment une offre alimentaire qui correspond au mieux aux attentes des consommateurs.
Alors on vient de le dire, hein, les salariés sont prêts à payer 8,20€ pour bien manger au bureau, et c'est important. Est-ce que vous diriez que ce qu'une entreprise offre à manger, donc avec vous on a l'ensemble du déjeuner, mais on a aussi un peu de snacking, est-ce que ça fait partie des choses que les salariés attendent ? Ils attendent d'avoir une entreprise dans laquelle on va pouvoir aller bien s'alimenter sans avoir à sortir à la boulangerie ou au restaurant dehors. C'est devenu un critère ?
C'est ce que montre l'étude en tout cas, c'est que 3/4 des personnes sondées estiment que le fait de proposer un service de restauration en interne est un atout pour l'entreprise et participe à son attractivité. Et quand on voit la difficulté que c'est de recruter aujourd'hui, bah, le fait de proposer un service de restauration en interne devient presque une obligation pour l'employeur, et j'ai envie de dire surtout dans notre pays où la culture du bien manger est quand même assez ancrée.
Alors comment vous tordez le cou aux gens qui pourraient vous reprocher qu'un frigo, c'est un petit peu austère, c'est comment on met du bien manger, comment on met du français, comment on met du bon dans une interface, pour le dire comme ça, qui n'est pas forcément conviviale, même si la technologie c'est peut vrai être un critère d'attraction pour des gens qui vont aller chercher leur déjeuner.
C'est vrai qu'un frigo, ça peut paraître froid, donc je vous inviterai bien évidemment à venir déguster nos repas. Parce que je pense que, et c'est aussi ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas une entreprise de technologie, on utilise la technologie pour servir ses repas en entreprise, mais le plus important, c'est bien évidemment la qualité du repas. C'est ce que chaque jour, les collaborateurs et nos clients vont goûter et vont récupérer dans les frigos. Et je pense que c'est à travers la qualité de ces repas qu'ils vont se dire, en fait, on va oublier l'aspect frigo. Si c'est bon, je suis dans mon entreprise, c'est bon à des tarifs raisonnables, on répond à ce besoin-là.
Pour ceux qui nous suivent à la télé ou en replay, vous voyez peut-être le back-office. On a vu quelques personnes qui sont aux manettes en train de préparer les repas. Parlez-nous des gens qu'on ne voit pas justement et qui sont incarnés par ce frigo. Qu'est-ce qu'on peut retenir des artisans ou des gens que vous faites travailler derrière ?
Il y a beaucoup de personnes en back-office. Et c'est vrai que c'est très important de les valoriser parce que c'est eux qui, au quotidien, participent au fait de vous faire bien manger au bureau. Donc on a bien évidemment les cuisinants, donc ceux qui vont fabriquer chaque jour les repas, donc à la fois des traiteurs partenaires de Foodles, mais aussi nos propres laboratoires de production. Et ensuite, on va avoir un hub opérationnel où là, on va recevoir l'intégralité des repas qui ont été produits, les dispatcher, et chaque jour aussi, c'est l'intégralité, chaque jour, pardon, c'est nos livreurs qui vont aller réapprovisionner l'intégralité de nos clients.
Voilà, l'alternative à la cantine collective. Foodles, merci beaucoup Mickaël Ormancé d'avoir été avec nous. On a parlé de ce qu'on mange au bureau, maintenant on va parler de est-ce que vous allez au bureau. Restez avec nous, on reçoit WeWork.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Qu'est-ce que ça veut dire retourner au bureau ? Pour répondre à cette question, on va interviewer WeWork et c'est Rebecca Nachanakian qui est avec nous. Bonjour Rebecca.
Bonjour Laurent.
Vous êtes la directrice générale de WeWork Europe du Sud, ça inclut également le Benelux et les pays nordiques. Avec vous, on va prendre le pouls de ces gens qui retournent au bureau, mais pas forcément le leur en propre, puisque quand on travaille chez WeWork, on est un peu dans son entreprise, mais pas tout à fait. C'est plutôt bien résumé ?
Oui, absolument. Merci Laurent. On voit un retour au bureau dans tous les pays du monde, inclus l'Europe du Sud et la France. Un retour qui a été stimulé par les différents produits que WeWork a créés, que ce soit le All Access qui a été créé en 2020.
Qu'est-ce que c'est All Access ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un client ?
All Access, c'est En fait, c'est un accès à tous les WeWork dans le monde. C'est un engage, c'est sans engagement. C'est un pass mensuel que vous pouvez renouveler ou pas, qui vous donne accès à tous les bâtiments WeWork. On en a plus que 700 dans le monde entier.
Donnez-nous une idée du taux d'occupation là, chez WeWork, le dernier chiffre à date.
Le dernier chiffre à date sur le niveau global, on est à 72%. Donc quand je dis global, c'est tous les WeWork dans le monde entier.
Donc quoi, 750 immeubles ou gros espaces ?
Absolument, dans 150 villes. Sur le marché français, on voit que le taux est revenu à pré-pandémie. Donc avant la pandémie, on voit beaucoup de gens revenir au bureau sur le marché français, sur le marché de l'Europe du Sud aussi.
Alors en fait, quand on est chez WeWork, on revient au bureau, mais au bureau avec un X, c'est-à-dire qu'on va avoir le choix entre plusieurs bureaux. Quel est le pourcentage dans vos clients de gens qui sont à cheval sur plusieurs buildings ? Est-ce que c'est la majorité ?
Le pourcentage, je vais vous donner un pourcentage approximatif. Donc chez WeWork, il y a plusieurs types de membres. Il y a les grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, et il y a ce qu'on appelle les membres All Access ou On Demand, qui est aussi un nouveau produit au jour, à la journée. Quand on parle de grandes entreprises, on est dans les 45%.
Oui.
Quand on parle des All Access, donc qui sont sur plusieurs bureaux, on est dans les 10%. Et le reste, c'est des petites et moyennes entreprises.
Bon, alors vous nous avez évoqué les différentes offres qui permettent d'accéder à plusieurs bureaux WeWork. Vous avez aussi une autre actualité. Vous lancez
un logiciel.
Une initiative,
oui,
à cheval sur plein de villes dans le monde. Pas seulement en Europe chez nous, mais aussi du côté, par exemple, de New York ou de Singapour. Vous allez permettre, vous engager à vouloir aider les centres-villes à retrouver du monde pour pallier un peu la tendance du télétravail. Comment ça se matérialise ? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette initiative pour nos centres-villes ?
En effet, donc on a lancé un partenariat, on le lance, hein, c'est en septembre pour la rentrée, un partenariat dans 11 villes, des villes un peu partout dans le monde, comme Chicago, Boston, Singapour, Londres et Paris. Et ces partenariats, en fait, c'est un partenariat ou avec des mairies, dans le cas de la France, ou avec des acteurs locaux pour encourager le retour au travail. Comment il se traduit ?
Donc le retour physique. On retourne travailler dans un tiers-lieu ou dans un lieu qui n'est pas chez soi.
Absolument. Le retour physique. Et il se traduit dans ce partenariat, c'est des prix réduits de All Access que nous donnons sur une période donnée pour un acteur ou une entité gouvernementale. Pas entité gouvernementale, je dirais comme des mairies en France.
Voilà. Alors, ça veut dire que du côté de Paris, vous travaillez main dans la main avec des mairies. Est-ce qu'il y a une mairie dont vous pouvez nous parler en particulier ou avec qui
Oui, la mairie du 17e, par exemple. On a fait un partenariat avec eux l'année passée, à l'ouverture, pas à l'ouverture, mais quand Dentsu est venu s'installer dans nos bâtiments.
Dentsu, qui est un grand groupe de communication, de publicité.
Ouais. Absolument, merci. Qui est venu s'installer sur notre bâtiment, sur un WeWork, sur l'avenue Wagram. Donc on a été main dans la main avec la mairie, où on a encouragé les résidents du 17e à revenir au bureau dans nos WeWork sur Paris ou dans le monde, en leur donnant un All Access à prix réduit.
Mais alors comment WeWork se dit, tiens, je vais participer au dynamisme des centres-villes ? Quelle est la motivation pour vous ? Est-ce que ça permet de donner une bonne image de WeWork, même de l'intégrer dans les territoires très très localement, comme il y a la boulangerie, il y a le WeWork, c'est ça un peu l'idée ?
Une des raisons pour lesquelles on le fait, c'est en fait, on essaye de créer une énergie dans le quartier où on est et d'encourager donc les résidents d'un arrondissement ou d'un quartier de venir essayer nos locaux. Et comme ça, on essaie de faire connaissance, comme vous faites connaissance quand vous êtes dans un nouveau... quand vous déménagez dans un nouveau building ou dans, vous avez un nouveau appartement, vous essayez de connaître vos voisins. Donc c'est ça la raison pour laquelle on le fait. Et en même temps, pour encourager les gens de travailler des bâtiments WeWork à la journée ou à l'heure ou au mois ou à la semaine.
Alors aujourd'hui à Paris, on imagine que ça peut participer à dynamiser certains centres, certains lieux en ville. Est-ce que vous pourriez granulariser ça au niveau d'autres villes en France ? Et je pense notamment à des villes où les centres-villes sont très abîmés, très vidés. Je pense notamment à Limoges. Est-ce que ça pourrait être un projet que vous allez égrener en région, au-delà des grandes villes qu'on a citées qui voilà, ont leur dynamisme ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer que WeWork fasse ?
Ah ben, on peut imaginer beaucoup de choses. Pour le moment, on est à Paris. On est content. Les résultats sont bons et nos membres sont contents. C'est là où se passent beaucoup de choses, je dirais, et où il y a beaucoup de talent. Mais on est ouvert à toute opportunité, que ce soit à Paris, en dehors de Paris ou en dehors de la France, pour accompagner des membres. On l'a fait dans le cas de Lisbonne, par exemple. On a accompagné un membre qui est avec nous dans plusieurs villes dans le monde. On a ouvert un bâtiment à Lisbonne en juillet pour accompagner un membre. Donc s'il y a un accompagnement, on le fera. S'il y a demande, on le fera.
Voilà comment on s'intègre dans un centre-ville et comment on participe à dynamiser. Il n'y a pas que les commerces finalement, il peut y avoir aussi les lieux, les tiers-lieux de travail. Merci beaucoup Rebecca Nachanakian d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice générale de WeWork Europe du Sud et la France fait partie évidemment de votre escarcelle. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de cet Happy Boulot. Vous voyez, on a parlé de plein de choses, on a parlé de production d'insectes, on a parlé de nourriture au bureau sans aucune transition et on a parlé du retour au bureau. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur notre il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche et puis bien sûr sur notre application et puis tous nos relais web. Merci beaucoup, bonne fin de week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre